La fois dernière, nous avons évoqué l'importance d'instaurer de la réflexivité dans l'organisation du travail. Si cela représente un intérêt intrinsèque, c'est surtout dans une perspective systémique qu'elle prend toute son ampleur. En effet, nombre de jardins font part de leur difficulté à construire un modèle économique viable et pérenne. Le deuxième axe de cette recherche-action menée avec Athémis s'est donc concentré autour de cette question. Toutefois, elle convient au préalable de signaler qu'il ne s'agit pas de proposer un modèle économique cocagne clé en main, à dupliquer ou à essaimer, mais plutôt de comprendre pourquoi il est urgent de sortir du référentiel économique dominant pour adopter un nouveau paradigme adapté au projet cocagne. L'objet de ce séminaire est bien de donner des concepts opérationnels nouveaux pour faire évoluer les formes de pensée des uns et des autres, créer des décalages par rapport à des choses qui apparaissent naturelles car héritées d'une longue histoire économique qui nous a construit et construit encore nos représentations. Mais pourquoi le modèle industriel ne nous satisfait plus? Un peu d'histoire d'abord. Le modèle économique dominant, que l'on dénomme modèle industriel, est fondé sur une logique de vente de biens et de services standardisés, associée à une recherche de production en volume, et qui s'est largement étendue à un ensemble d'activités, y compris agricoles. Ce modèle consiste à indexer le chiffre d'affaires sur le volume des biens et des services vendus, et incite donc les acteurs économiques à utiliser plus de matières, plus d'énergie, pour produire plus de biens, plus de services. Cette représentation a tellement imprégné nos organisations qu'il est devenu quasiment naturel de dire que pour gagner plus, il faut vendre plus et donc produire plus. C'est la logique des volumes qui s'appuie sur la consommation de masse, la réduction des coûts, l'intensification et l'hyperspécialisation du travail. Dans ce cadre, dont l'apogée se situe autour des années 60, on pouvait légitimement voir la comptabilité comme apprenante, dans le sens où elle permet d'analyser les évolutions, les fluctuations, etc. Cette dimension apprenante tient en fait de la stabilité des organisations qui ont mis au point des process de fabrication stables, normalisés, avec une évaluation de la qualité qui renvoie à des contrôles de conformité au regard de critères stabilisés ex ante. Donc, lorsque survenaient des écarts de productivité, on pouvait précisément assigner un effet à sa cause. Par exemple, en augmentant l'échelle de la production ou en intensifiant le travail, on augmentait la productivité. Tout cela a construit une culture du chiffre, qui dans ce cadre précis avait une certaine pertinence. Au début des années 80, le marché des biens est de plus en plus saturé, ce qui provoque une intensification de la concurrence, une instabilité, une volatilité de la demande et une course à l'innovation. Dès lors, les entreprises recentrent leurs activités sur des segments de production qui apparaissent les plus rentables et externalisent tout ce qui l'est moins, comme la logistique, la maintenance, la RH, mais toujours en cherchant à capter la valeur monétaire sur les sous-traitants. C'est le développement de l'approche par la chaîne de valeur. Les entreprises en aval imposent leurs prix et leurs contraintes de production. Dans le même temps, une logique gestionnaire s'impose. Elles mettent en place des indicateurs monétaires et financiers pour piloter la production, ce qui influence directement l'organisation du travail. Cela renforce le pilotage par les chiffres et l'évaluation est limitée à ce qui est mesurable, aux effets directs et immédiats. En clair, ce qui ne se compte pas, ne compte pas. Dans cette démarche, la qualité fait l'objet d'arbitrage pour maintenir des coûts bas. On favorise donc des produits de moindre qualité. On pousse à la délocalisation, à la réduction d'effectifs, avec tous les effets négatifs que cela génère sur le territoire et l'emploi. Cette logique a aussi des conséquences délétères sur la qualité, le sens du travail, absence de reconnaissance, burn-out, turnover permanent, mais aussi des conséquences environnementales et sociales désastreuses sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. On assiste aussi à une explosion du secteur tertiaire. La production de services standardisés qui deviennent quasi-biens est calquée sur la production industrielle de biens, reprenant les mêmes logiques et notamment les mêmes méthodologies d'évaluation. Or, on identifie deux caractéristiques essentielles qui différencient la production d'un bien de celle d'un service. D'une part, la qualité d'un service ne peut être connue à l'avance, elle se constitue en cours d'activité. D'autre part, la réalisation du service est toujours une coproduction, qui engage à la fois le professionnel et le bénéficiaire. Le résultat ne peut être connu à l'avance et c'est ici la condition de la création de valeur, au sens de la capacité à formuler une réponse opportune et pertinente à la demande du bénéficiaire, qui dépendra à la fois de la capacité du bénéficiaire à bien formuler sa demande, à celle du professionnel à l'interpréter le plus fidèlement possible, pour y répondre compte tenu de ses ressources et de son périmètre d'action. La co-construction d'un service engage donc forcément de nombreuses ressources immatérielles telles que la confiance. et l'écart entre le prescrit et le réel, entre l'offre initialement proposée et le résultat final peut être important, ce qui ne veut pas dire que la qualité du service est moindre, au contraire. Les réajustements réguliers permettent de coller au mieux aux besoins du bénéficiaire. On comprend bien, donc, que les méthodes d'évaluation issues du modèle industriel ne sont plus satisfaisantes puisqu'elles ne permettent pas de révéler la véritable valeur produite et notamment immatérielle. Il convient donc de ne pas se limiter aux seules dimensions mesurables en trouvant d'autres éléments de compréhension et d'évaluation. Je vous renvoie ici au podcast numéro 1 traitant de l'organisation réflexive du travail. Les jardins de Cocagne, on le sait, rendent une multitude de services au territoire, évalués à l'aune d'indicateurs imparfaits, qui ne rendent pas compte de leur véritable pertinence. Athémis nous propose donc de sortir des prismes de la comptabilité analytique classique qui divise artificiellement le monde en charges et produits et offre une vision partielle de la valeur créée. Il s'agit d'une réalité construite, nécessaire certes, mais non suffisante. Et d'ailleurs, le réseau Cocagne s'est construit comme ceci. Autour de la collecte massive de données via les observatoires, etc., la comparaison de données technico-économiques. Mais cela crée des situations idéales typiques, de référence. On dégage des seuils, des médianes, qui laissent croire qu'en deçà, les jardins n'ont pas de raison d'exister. Et là, on court un risque de disqualification pure, lié à une représentation fermée d'un modèle unique à essaimer, qui ne permet pas de penser l'effet de territoire. On crée aussi un système de comparaison des jardins, toutes choses égales par ailleurs. Quand bien même, on le sait, les transactions, les conditions de production, les territoires, les relations collectivités, les bassins de vie et d'emploi ne sont justement pas égaux, ne se valent pas. La comparaison mène donc forcément à des erreurs d'interprétation. Il faudrait déconstruire l'idée d'un modèle idéal typique qui ne satisfait personne et retrouver une comptabilité véritablement apprenante, enrichie d'éléments extra-financiers qui révèlent la valeur immatérielle. D'accord, mais comment ? Quelle alternative ? Quel nouveau modèle ? Athémis propose celui de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui consiste non pas seulement à produire un bien ou un service, mais plutôt une solution intégrée de biens et de services basée sur la vente d'une performance d'usage. Dit autrement, on ne vend plus des biens ou du temps, mais une valeur servicielle, qui répond à un besoin situé territorialement. Il s'agit d'un modèle qui adopte une vision systémique bien plus complexe que sa seule dimension monétaire et qui cherche à se dégager des logiques de volume pour renouer avec les grandes fonctionnalités de la vie, l'alimentation, la santé, l'éducation, la mobilité. Ce modèle serviciel permet aussi de prendre en charge des externalités environnementales ou sociales. Il s'appuie sur deux grands leviers, les dynamiques de coopération, à la fois internes, externes, donc soutenue par la réflexivité, et la mobilisation des ressources immatérielles. Ce qui importe donc, ce ne sont plus les volumes, mais la valeur réelle, et donc pour partie immatérielle produite par un jardin. Et on le sait, la valeur produite par un jardin va bien au-delà de la production de légumes et de l'insertion des personnes. D'ailleurs, nombre de dirigeants témoignent en avoir l'intuition, mais sans être capables de l'objectiver. La valeur produite par les jardins est multifonctionnelle. Animation territoriale, alimentation, santé, restauration des sols, préservation des ressources, accessibilité alimentaire, éducation, vivre ensemble, émancipation, résilience, etc., etc. Pourtant, trop souvent, cette valeur n'est pas reconnue, pas valorisée et encore moins financée dans sa globalité. Le découpage en silos, le financement en silos conduit à invisibiliser toute une partie de la valeur créée par les jardins. Un exemple. Un jardin reçoit des financements pour cultiver une parcelle en zone périurbaine grâce à des salariés en insertion. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, d'une part, le terrain se situe sur un espace boisé, très pollué. Ce qui manque donc au jardin, un travail intense de réhabilitation des sols, de dessouchage, etc. Et pour lequel il n'est pas directement financé. Et pourtant, on attend de lui une rentabilité à court terme des outils de production. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'attend réellement la collectivité, ce sont moins des légumes bio, locaux et solidaires que de l'animation territoriale, un espace de sensibilisation à l'environnement. On voit bien que ce qui a manqué ici, c'est la coopération, la co-construction du projet. On voit aussi clairement que pour une activité, il existe plusieurs effets utiles qui doivent être objectivés en amont, valorisés et financés à ce titre. En mettant un voile sur la multifonctionnalité d'un jardin Cocagne, en réalité, on le met en difficulté. Ici se joue, et c'est ce qu'Athémis nous propose, la capacité à être dans une logique où on ne vend pas qu'une unité de facturation, séparée l'une de l'autre, d'un côté l'insertion, de l'autre les paniers, non. Se joue ici la capacité à construire avec les acteurs du territoire des formes de conventions collectives au service d'un projet cohérent qui essaie de tenir ensemble insertion, alimentation, animation territoriale, etc. Il faut sortir d'une logique de marché qui passe à côté de la vraie valeur produite pour construire un accord sur la finalité de ce qu'on fait et de comment les uns et les autres peuvent y contribuer. Par exemple, avec les paniers solidaires, on ne contractualise pas l'accompagnement d'un côté et le panier de l'autre. L'unité de facturation, ce n'est pas le panier ou l'accompagnement, non. C'est la capacité à tenir le tout. Je me répète, mais il est impératif de sortir du raisonnement en silo, d'organiser une complémentarité entre les activités. Il faut sortir d'une logique de chaîne de valeur qui nous nuit à une logique d'encastrement de la valeur, où c'est bien le tout, le système qui fait ressource. Et non pas d'un côté le maraîchage et de l'autre l'insertion. Non, c'est la synergie qui crée la valeur. La qualité de l'accompagnement socio-professionnel va jouer sur la qualité des légumes et réciproquement. Ce décloisonnement permet typiquement d'éviter la tension récurrente entre objectifs de production et objectifs d'insertion que l'on retrouve dans nombre jardins. Mais cela suppose une coopération intermétier entre encadrants, ASP, direction administrateur, et une coopération en externe avec les partenaires, les financeurs, les adhérents. Et c'est là que la réflexivité prend à nouveau toute son importance. Et d'ailleurs, lorsqu'on entame une stratégie de diversification d'activités, une épicerie itinérante, un tiers-lieu, un atelier de transformation, peu importe, il faut se poser la question de la complémentarité. Ne pas penser les activités et leur rentabilité séparément les unes des autres. Il faut interroger comment cette nouvelle activité vient en fait soutenir la première, d'un point de vue insertionnel, environnemental, associatif ou que sais-je. Comment cette nouvelle activité, encastrée à la première, renforce la pertinence du projet global, accroît la valeur totale. Comment cette activité supplémentaire va avoir un effet multiplicateur sur le tout, sur le projet territorial co-construit en entier. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, tout de suite se pose un tas de questions. Comment répartir le revenu, les enjeux de financement, puis la révélation, l'évaluation de ces impacts immatériels, quel système de preuve, quel dispositif d'objectivation? Une fois objectivé, quelles dépenses acceptables pour les bénéficiaires? Comment penser ensemble de manière articulée les dimensions monétaires et non monétaires? Comment ensuite on contractualise avec les partenaires? Comment on construit un espace de dialogue, de co-construction de projets, de coopération territoriale? Comment on élabore des conventions partenariales entre parties prenantes d'un écosystème coopératif territorial sur la base d'engagements réciproques? Et puis, quelle gouvernance au service de cette dynamique servicielle? Pour ne pas être trop longue, ces questions feront l'objet d'un podcast suivant. Mais je vous invite à vous plonger dans tous les documents ressources fournis par Athémis qui m'ont servi de base pour construire ce podcast afin de mieux vous familiariser avec cette doctrine innovante.